Bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour du grain à moudre d'été. Ce soir, Boris Johnson va-t-il sauver le Royaume-Uni ? Décidément, Boris Johnson est un incompris. Que n'a-t-on pas dit sur ses nombreux traits d'humour et galéjades ? Par exemple, cette récente sortie sur la BBC coupée au montage à propos des Français qui ne seraient que de petites merdes cherchant à entuber le Royaume-Uni. Il était pourtant tellement évident que cette qualification scatologique était un hommage érudit et raffiné à ce qui lie étroitement France et Angleterre depuis trois siècles, la fistule anale de Louis XIV à l'origine, on le sait, d'une composition de Lully reprise outre-Manche pour en faire un hymne. Boris Johnson est un joyeux drille, mais ses nouvelles fonctions l'obligent à un peu de retenue. Ainsi, ne l'a-t-il pas vraiment ramené lors de sa tournée du Royaume-Uni la semaine dernière devant des Écossais, des Gallois, des Nord-Irlandais pas tellement disposés à rire depuis que se profile un Brexit sans accord qui les mettrait à terre. Mais après tout, s'il est aujourd'hui aux manettes du Royaume-Uni et disposé à le rester le plus possible, pourquoi ne pas prendre au sérieux ce qu'il propose pour le pays ? Comment Boris Johnson compte-t-il s'y prendre pour la sortie de l'Union européenne sans provoquer une catastrophe sociale et économique ? S'est-il décidé à être plus britannique qu'anglais ? Boris Johnson va-t-il sauver le Royaume-Uni ? Et nous en débattons jusqu'à 19h avec nos trois invités. Bonsoir Jeremy Stubbs.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Parti conservateur en France et vous venez juste de vous asseoir à cette table. Mais vous pouvez prendre votre reprendre votre souffle tranquillement. Merci d'être avec nous ainsi qu'à vous, John Henley. Bonsoir.
Bonsoir.
Correspondant à Paris du Guardian. Et nous sommes en ligne depuis Nice grâce à la magie du duplex France Bleu Nice et le magicien Rémi Martinez. Bonjour Sophie Louswarn.
Bonjour.
Bonjour et merci à vous d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Picardie Jules Verne, spécialiste de la Constitution britannique. Donc nous sommes avec vous jusqu'à 19h. Je voulais d'abord m'assurer que tous ensemble, nous ne tombons pas dans l'écueil qui a été celui de la presse française et aussi de nombreux intellectuels avant l'élection aux États-Unis, cette fois de Donald Trump, qu'on n'a pas pris au sérieux, dont on n'a jamais pensé qu'il pourrait remporter l'adhésion de l'électorat, notamment populaire, parce qu'on ne l'écoutait pas, cet électorat. On compare très souvent Boris Johnson à Donald Trump. Alors, est-ce que c'est Boris Johnson, lui aussi, l'homme qu'on aime détester, John Henley ?
Écoutez, ça dépend un petit peu de son côté, son point de vue politique. Boris Johnson, ce qu'on peut dire de lui, c'est que c'est le genre de personnage qui plaît beaucoup aux Anglais. Généralement, les Anglais apprécient un dose d'humour. Ils apprécient les hommes politiques, les femmes politiques qui se moquent un peu d'eux-mêmes. Et Boris Johnson, il a beaucoup d'humour. Il aime beaucoup les jeux de mots, les bons mots. Il se moque constamment de lui-même. Toute la question, je pense, c'est que est-ce que il n'a pas encore, je pense, eu le genre de poste, le genre de responsabilité où on a pu vraiment juger quelles sont ses capacités.
Donc ça y est, on va le savoir. Il n'est pas devenu, Jeremy Stubbs, il n'est pas devenu, alors je ne sais pas si c'était votre candidat à vous qui représentait ici en France le Parti conservateur, mais il n'est pas devenu premier leader déjà de ce parti pour rien, pas sur un malentendu.
Je pense que Boris Johnson, il faut le dire, si aujourd'hui c'est le roi, c'est Nigel Farage qui l'a fait roi. Normalement, la majorité des députés conservateurs n'étaient pas favorables à Boris Johnson. Mais dès que Nigel Farage, par son succès aux élections européennes, a mis la pression, ils ont compris que le seul salut face à Nigel Farage, c'était Boris Johnson. Et donc Boris Johnson, il doit son élection là à des circonstances.
Donc c'était pas un choix de conviction, mais un choix par défaut.
Oui, mais les gens ont beaucoup de facilité pour transformer le hasard en conviction, n'est-ce pas ?
Sophie Louswarn, c'est quand même lui, Boris Johnson, qui a réussi à convaincre une partie de la droite de voter pour le Brexit. Il a aussi été élu maire de Londres à deux reprises dans une capitale plutôt à gauche. Bon, il a pu peut-être, je ne sais pas si vous le direz jusque-là, faire ses preuves quand même en tant que politique.
Oui, il a fait ses preuves, il a fait une carrière politique brillante, il a été un très bon maire de Londres, un ministre des Affaires étrangères controversé, certes, mais il a été élu par les militants du Parti conservateur avec 2/3 des voix et il bénéficie d'un soutien élevé. Les conservateurs aujourd'hui sont à 31% dans les sondages, alors que les travaillistes sont tombés à 21% selon un sondage publié dans le Sunday Times le 28 juillet 2019. Et 64% des Britanniques préfèrent Boris Johnson comme Premier ministre. Et il est le mieux à même à remporter une élection législative face à Jeremy Corbyn. Et son objectif est en effet de faire obstacle à Jeremy Corbyn. C'était son message de campagne, unir le pays, faire obstacle à Jeremy Corbyn et mettre en application le Brexit avant le 31 octobre, avec ou sans accord.
C'est un homme qui se revendique régulièrement de l'héritage de Winston Churchill, sur qui il a d'ailleurs rédigé une biographie. John Henley, qu'est-ce qu'il y a de churchillien en lui ?
Écoutez, je ne sais pas s'il fait ça exprès ou non, mais moi, de toute façon, je vois dans sa façon de marcher et parfois aussi dans sa façon de parler une certaine volonté d'imiter Churchill.
Sauf que Churchill, il tombait pas par terre.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, je pense que ça a été Churchill a clairement été un héros de Boris Johnson depuis très longtemps. Comme vous dites, il a écrit sa biographie voilà. Je pense que Boris Johnson, qui en tant que jeune garçon à 15 ans, a apparemment dit à ses parents que son ambition était d'être roi du monde. Et il a rêvé depuis longtemps de faire en fait justement comme Churchill, c'est-à-dire de prendre le contrôle de son pays à un moment de crise quasi existentielle. Voilà, ce qu'il va en faire, on verra. Mais au moins, voilà. Il est en position pour le faire.
Bon, en ayant d'ailleurs, mais on est dans un contexte tellement différent aujourd'hui, Jeremy Stubbs, mais en ayant sur l'Europe un discours évidemment complètement antagoniste à celui de Churchill, il faut dire qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses pendant tout le siècle, et notamment, il ne pouvait pas imaginer, Churchill, ce que l'Union européenne fondée bien plus tard allait devenir, notamment l'hégémonie franco-allemande. Comment Boris Johnson commente ses convictions churchilliennes sur l'Europe quand il s'agit de le faire dans des biographies, quand sans doute les journalistes de la presse britannique lui posent la question?
Je pense que ce que Boris Johnson a retenu de Churchill, c'est la posture du héros à l'heure la plus grave. Et il y a un peu de cette mythologie qui entoure maintenant le Brexit. C'est de dire que la retraite de Dunkirk, c'est un peu la sortie du Royaume-Uni sans accord. On rejoue un peu cette mythologie. En même temps, je pense que Boris Johnson, il a un côté réaliste, parce qu'au fond, c'est un homme modéré, ce n'est pas un populiste, c'est un démagogue, mais pas un populiste. Il n'a pas de politique extrémiste. Il est conscient du fait que tout peut mal tourner. Donc, il a un côté qui préférerait un accord, qui préférerait la modération. Ce n'est pas une simple réplique de Nigel Farage.
Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un démagogue mais pas un populiste?
Il adore faire des discours, il adore se faire applaudir par les gens. Mais un populiste, c'est quelqu'un qui a des politiques qui excluent certaines sections de la population. Ce n'est pas vraiment son approche du tout.
Il a dû quitter l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord très malheureux, alors, parce qu'il s'est fait huer partout.
Oui, c'est le destin souvent des démagogues.
Sophie Lussouarn, pour en venir progressivement à son euroscepticisme, c'est peut-être d'ailleurs un euphémisme. Il faut rappeler que Boris Johnson a grandi, il est né aux États-Unis, mais il a grandi à Bruxelles, un petit peu, quelques années de sa vie. Son père était fonctionnaire européen au moment
moment où le Royaume-Uni intégrait la communauté économique européenne en 73. Puis, il a fait partie, son père, des tout premiers eurodéputés britanniques. Donc, de quand date son euroscepticisme à lui, le fils? Est-ce que, dans tout ce qu'il a pu écrire à l'époque où il était correspondant à Londres du Daily Telegraph, à Bruxelles du Daily Telegraph, est-ce qu'on peut voir l'évolution de sa position?
Alors, je vais vous dire que lorsqu'il était journaliste au Times, au Daily Telegraph et au Spectator, avant d'amorcer sa carrière politique, il était un europhile convaincu. Et c'est très récemment, au moment du référendum du 23 juin 2016, qu'il a pris position pour le Brexit, puisqu'il estimait que le Royaume-Uni devait reprendre le contrôle et lutter contre l'immigration dans le contexte de la crise des migrants et lutter contre la bureaucratie de Bruxelles. Il a longtemps hésité et il s'est positionné contre son ancien camarade à Eton et à Oxford, David Cameron, pour faire campagne pour le Brexit avec Nigel Farage. Et il a gagné avec 51,9% des voix. Et au lendemain de la démission de David Cameron, Boris Johnson est candidat à la tête du Parti conservateur, mais il abandonne la course lorsque son rival Michael Gove déclare qu'il est incapable d'être Premier ministre.
John Hanley?
Oui, je voudrais juste rajouter à ça qu'en fait que même s'il est vrai que jusqu'à très récemment Boris Johnson a été europhile et pro-européen, l'une des multiples ironies de ce qu'on voit en ce moment, c'est que Boris Johnson, pendant qu'il était correspondant à Bruxelles du Daily Telegraph, a largement contribué, je pense qu'on peut le dire, au climat d'euroscepticisme ambiant en Grande-Bretagne. En écrivant, en créant ce qu'on appelle les euromythes, il a écrit beaucoup de papiers en exagérant les mesures adoptées par la Commission européenne.
Un petit peu de mauvaise foi.
Voilà, de beaucoup de mauvaise foi. Parce que ça vendait des journaux. Il écrivait pour le Daily Telegraph, qui était un petit peu le journal, l'un des journaux des eurosceptiques britanniques. Ça a beaucoup plu à ses lecteurs et il est allé de plus en plus loin.
Il a influencé son électorat en quelque sorte, Jeremy Stubbs. Il a ouvert son propre boulevard. Il a lui-même ouvert son propre boulevard. Il a d'abord écrit avec un petit peu de mauvaise foi, de mensonge, et ensuite il est retourné au Royaume-Uni. Et puis là, il a fait campagne pour les convictions qu'il avait étalées dans les journaux. Et est-ce que vous, d'ailleurs, vous étiez un lecteur de ces articles, et est-ce que vous avez été influencé par ces articles?
Des articles portant sur les bananes et les saucisses, je ne les lis pas très souvent.
Parce qu'il parlait de bananes et de saucisses tout le temps.
Oui, le mythe, comme disait John tout à l'heure, selon lequel désormais les bananes en Europe seraient droites et
non,
c'est n'importe quoi. ce qui est sûr, c'est que maintenant, il lui incombe de faire preuve de sérieux cette fois. Fini les blagues. Personne n'a envie aujourd'hui de faire de plaisanteries et on attend des résultats concrets. Et il est vrai qu'il apporte beaucoup d'énergie. Je pense que sa position, c'est qu'il aime l'Europe, il aime le continent, il aime les Européens, mais comme beaucoup de personnes d'ailleurs, il n'aime pas la bureaucratie de l'Union européenne. C'est ça le problème. C'est là où le bât blesse. Encore une fois, ce n'est pas quelqu'un de, il n'a pas ce nationalisme qui rejette l'autre, mais il a un attachement à l'identité traditionnelle du Royaume-Uni, et puis il ne supporte pas la bureaucratie de l'Union européenne.
Alors, il a commencé à présenter son programme pour le Royaume-Uni, alors évidemment en partant du principe que ce Royaume-Uni devra voler de ses propres ailes bientôt, mais sur ce programme en particulier, Sophie Louswarne, sans doute l'avez-vous suivi quand il l'a présenté à Manchester il y a 10 jours, c'est un programme qui fait la part belle aux investissements, que ce soit dans le ferroviaire, le logement, les hôpitaux, les écoles. Derrière le libéral Boris Johnson, il y a aussi un keynésien qui croit à la relance, qui croit au plan de relance. Je crois, oui. Il souhaite augmenter les salaires, améliorer le système éducatif, créer un service de santé à même de faire face aux défis du 21e siècle. Et aujourd'hui, Boris Johnson a décidé d'injecter 1,8 milliard de livres dans le système de santé, une décision nécessaire pour faire face au vieillissement des hôpitaux. Et ceci permettra de réduire les files d'attente. Ce matin, le milieu hospitalier a réagi positivement à cette annonce. Par ailleurs, il a nommé 20 000 policiers supplémentaires pour améliorer la sécurité et il s'est engagé à investir dans les infrastructures. Les mesures libérales seront annoncées dans son budget à l'automne, après le congrès du Parti conservateur, qui se déroulera à Manchester début octobre. Et il souhaite réduire l'impôt sur les sociétés pour attirer les sociétés au Royaume-Uni.
Il parle
les
plus
maintenir
de...
au Royaume-Uni.
Il ne parle plus
de taxer
les hauts revenus.
Sur le...
Mais il en parle plus de taxer les hauts revenus. Il en parlait au début. Et
non,
là,
non,
il...
non, réduire l'impôt sur le revenu. Il en parle toujours.
John Hanley, c'est cet argent dont il a été annoncé hier qu'il allait abonder encore au fond du NHS, mm-hmm. le National Health Service, auquel les Britanniques sont très attachés. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a de quoi sauver l'institution nationale ?
C'est clair que le NHS a besoin d'investissement. Je pense que la question que beaucoup des lecteurs se posent en Grande-Bretagne, c'est d'abord, c'est essentiellement d'où va venir cet argent, surtout en cas d'un Brexit ultra dur ou d'un Brexit sans accord. Un scénario pour lequel l'indépendant, les économistes indépendants prévoient une chute de 10% du PIB britannique sur les 10 années à venir. C'est quand même pas rien.
Est-ce que ce n'est pas justement l'argent que le Royaume-Uni versait à Bruxelles, c'est ce qui était dit au départ, les 350, c'était combien
350 millions
par semaine.
Exactement, et c'est ça aussi que on pense que beaucoup d'électeurs également soupçonnent que ce geste spécifiquement pour les NHS représente pour Boris Johnson en fait une tentative de récupérer des votes avant une et des élections législatives anticipées, en fait que tout le monde anticipe. Maintenant, avant la fin de l'année.
Jeremy Stubbs, est-ce que l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord vont toucher quelque chose de cet argent économisé une fois le Royaume-Uni
Mais
sorti de
D'abord, l'argent qu'ils dépensent, c'est le fruit des années dites d'austérité. Donc, on savait qu'on avait une somme d'autour de 27 milliards à dépenser cet automne. Et Theresa May a eu l'extrême gentillesse de ne pas dépenser cet argent avant de quitter le pouvoir. Donc Boris Johnson, il profite de ça d'abord. Et cet argent, bien sûr, il va dépenser ça un peu partout pour avoir le plus d'alliés possible.
C'est pour avoir des alliés ou c'est vraiment dans la volonté de sauver des industries, de sauver l'hôpital
Encore une fois, ces choses sont absolument concordantes. Mais il est vrai qu'on a dit de Boris Johnson que c'est un adorateur de l'infrastructure. C'est ce qu'il connaît de mieux dans la vie. Même à Londres, il dépense de l'argent sur l'infrastructure. Donc il continue une politique qui est la sienne depuis très longtemps. En même temps, on sait que la position du parti en ce moment est telle que si on ne dépense pas de l'argent sur le service de santé, on est cuit, tout simplement.
Sophie Lussouane, c'est un peu comme s'il considérait que le Royaume-Uni venait d'être majeur ou allait bientôt l'être et qu'il avait désormais le droit de faire tout ce que l'Union européenne lui interdisait jusque-là.
Je n'irai pas jusque-là, mais je crois que, en effet, comme on l'a dit précédemment, Boris Johnson est devenu Premier ministre dans un contexte où l'économie britannique est encore très saine et attire les investisseurs. Elle dispose d'un taux de chômage très faible, à 3,7%, et d'un marché du travail flexible. Mais évidemment, la croissance a beaucoup baissé. Elle est au plus bas depuis 6 mois, autour de 0,3%, et risque d'être négative en 2020. La livre sterling a également chuté à son plus bas niveau depuis 2 ans, à 1,09 euros. Ceci porte atteinte au pouvoir d'achat des Britanniques qui partent en vacances à l'étranger. Et la Banque d'Angleterre a mis en garde contre les risques de récession liés au Brexit. Et les taux d'intérêt seront maintenus à 0,75% face aux incertitudes et aux tensions commerciales. La Banque d'Angleterre prévoit un ralentissement général de l'économie mondiale.
Oui. Alors, John Henley, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a fait part vendredi, comme le disait Sophie Louswarm, de sa grande inquiétude liée, dit-il, au fait que des secteurs entiers de l'économie britannique ne supporteraient pas un Brexit sans accord. Il a cité l'automobile, le transport, l'alimentation, la chimie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une dose de pessimisme un peu exagérée, comme le disent aujourd'hui les partisans d'un Brexit dur?
Écoutez, je pense qu'il est difficile d'exagérer les conséquences d'une sortie sans accord sur le court terme. Au plus long terme, personne ne le sait. Je vois un chemin, il y a beaucoup de gens qui voient un chemin vers une économie florissante pour la Grande-Bretagne si l'idée est de déréguler, de transformer l'économie britannique dans une économie, on va dire peut-être asiatique, on parle de Singapour sur Thames, etc.
Mais d'autres disent Royaume-Uni, Grande-Bretagne mondiale, il y a les deux, Brighton.
Tout à fait, mais sur le court terme, vraiment, il est difficile d'exagérer l'impact sur l'économie et la société britannique d'un tout simplement parce que d'un jour à l'autre, la Grande-Bretagne deviendrait un tiers pays par rapport à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est environ 50% du commerce de la Grande-Bretagne, et toutes les règles, toutes les lois, tous les accords, tous les traités qui règlent ce commerce disparaîtraient du jour au lendemain.
Sauf à s'allier avec les États-Unis, comme le revendique Boris Johnson. Sauf que ça, c'est pas très churchillien, Jeremy Stubbs, de vouloir à tout prix signer des accords avec les États-Unis, qui peut-être à leur accorder une petite dérégulation du marché des médicaments, par exemple, ou...
Au contraire, la mère de Churchill était américaine, bien sûr, mais question...
Mais il tenait quand même la vraie souveraineté nationale et de pas tellement se laisser mener à la baguette par les
États-Unis. Boris Johnson aussi, ce n'est pas parce qu'on négocie un accord qu'on cède de la souveraineté, sauf avec l'Union européenne, selon certains. Mais non, la question avec les États-Unis, c'est si on arrive à un accord, ce sera quand? Et ça ne peut pas arriver suffisamment vite pour compenser les doutes que soulève John sur les 40 et quelques pourcents de commerce avec l'Union européenne. Et on peut penser le plus grand bien du monde de Monsieur Trump, mais je le vois mal habillé en ange avec des ailes et une baguette magique pour nous sauver en quelque sorte.
Exactement.
Il n'y a pas de salut là.
Ce n'est pas qu'une question de quand, c'est une question de sur quel terme, sous quelles conditions. Trump, dont le slogan est America First, donc les États-Unis d'abord, effectivement, on le voit très mal faire des gestes pour la beauté envers la Grande-Bretagne, mais surtout, l'ambassadeur des États-Unis à Londres a été très clair sur ce point-là. Un accord de libre-échange entre les États-Unis et la Grande-Bretagne serait sur les conditions, sur les termes des États-Unis. C'est-à-dire, justement, ouverture du marché de la santé vers les multinationales, pour les multinationales américaines. Ça veut dire bœuf aux hormones dans les rayons des supermarchés
britanniques. C'est une négociation, etc. On ne peut pas préjuger du résultat.
Sophie Louswarm, on entend, pour rester encore un tout petit peu sur le programme de Boris Johnson, mais on entend qu'il va s'aligner sur les positions américaines sur des questions concernant la Syrie, l'Iran, le réchauffement climatique. Tout ça, ça va être autant de tests de politique étrangère et qui vont obligé aussi à prendre position côté américain ou européen, par exemple sur l'Iran. Est-ce que c'est aussi scindé qu'on ne le pense? Est-ce qu'il va vraiment être obligé de choisir un camp sur ces questions-là?
Alors, je pense que, en effet, Boris Johnson est un proche ami de Donald Trump. Donald Trump l'a félicité, avait dit d'ailleurs que c'était le meilleur candidat pour devenir Premier ministre et remplacer Theresa May. Je pense qu'il sera un allié très proche des États-Unis et qu'il pratiquera peut-être les trois cercles qui avait été énoncé par Winston Churchill, le cercle transatlantique, le cercle européen et le cercle du Commonwealth, ces trois cercles qui ne s'excluent pas mais qui se complètent. Je pense qu'il saura habilement essayer de trouver une nouvelle relation avec les 27 pays de l'Union européenne, en privilégiant évidemment cette relation spéciale avec les États-Unis qui remonte à la Première Guerre mondiale, qui a été scellée au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui repose sur des échanges de renseignements militaires. Le Royaume-Uni deviendra sans doute membre également du pacte transpacifique, comme l'a proposé Shinzo Abe dernièrement. Et ce sera aussi un réseau important pour nouer un partenariat commercial pour le Royaume-Uni.
On dit par exemple qu'on va finir par exporter les agneaux du Pays de Galles au Japon, sauf qu'au Japon, on ne mange pas beaucoup d'agneaux. John Henley, Boris Johnson, il a aussi son Steve Bannon à lui. C'est comme ça qu'on appelle, ou qu'appelle la presse britannique, le nouveau conseiller aux affaires Dominic Cummings, qui est passionné de tactique militaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce monsieur?
Écoutez, Dominic Cummings, c'était le véritable cerveau de votre livre, c'est-à-dire la campagne officielle pour quitter l'Union européenne. C'est lui qui a trouvé le slogan qui a vraiment fait marcher cette campagne-là. C'était donc take back control, reprenons le contrôle. Ça, c'était une idée de Dominic Cummings. C'est un génie. Pour certains, un véritable génie. Pour d'autres, un génie extrêmement dangereux.
Et pour vous, Jeremy Stubbs?
Oh, mais il faut toujours avoir un certain génie du mal quelque part, mais il faut pas lui donner tout le pouvoir. C'est ça la différence. On disait de Lord Mandelson, le proche conseiller de Tony Blair, que c'était le seigneur de la nuit. Donc il y a toujours quelqu'un de très machiavélique dans l'équipe.
Mais qu'il a pas très bien conseillé Tony Blair sur, notamment sur l'Irak.
Je ne crois pas que ce soit lui qui lui a donné ces conseils-là.
France Culture, du grain à moudre, Julie Gacon.
Boris Johnson va-t-il sauver le Royaume-Uni? C'est la question que nous posons dans du grain à moudre d'été jusqu'à 19h avec nos invités Jeremy Stubbs du Parti conservateur ici en France, John Henley du Guardian et Sophie Louswarne, chercheuse spécialiste de constitution britannique. Boris Johnson a entamé cette grande tournée la semaine dernière au Royaume-Uni. Il est passé par l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord. Partout, il a été accueilli très froidement. Il voulait, dit-il, faire passer un message d'unité. Mais est-ce qu'il y croit lui-même? Est-ce qu'il se sent britannique, d'après vous? Ou est-ce que, comme beaucoup d'Anglais, il se sent de plus en plus anglais? John Henley.
Écoutez, c'est une question très compliquée. Boris Johnson, faut dire, je pense d'abord que le Brexit est un projet anglais. Pas britannique. L'Écosse, c'est bien connu, a voté contre le Brexit. L'Irlande du Nord a voté contre. Les Pays de Galles, oui, ont voté pour. Mais là, ça devient encore un petit peu compliqué. Mais je pense que et surtout, ça risque le Brexit. Évidemment, ça risque de faire exploser le Royaume-Uni. Il y avait ce matin le dernier sondage en Écosse, qui montrait que les Écossais, les électeurs écossais sont maintenant majoritairement pour un deuxième référendum pour l'indépendance en Écosse. En Irlande, c'est-à-dire la République, donc l'Irlande du Sud, qui fait pas partie du Royaume-Uni, évidemment, eux, ils sont pour la réunification de l'Irlande. Les Irlandais du Nord seraient aussi pour, en faveur de cette réunification en cas d'un Brexit dur ou d'un Brexit sans accord. Donc je pense que vraiment en cas d'un Brexit sans accord, sans un no deal Brexit comme on dit, l'intégrité du Royaume-Uni et serait véritablement mise en cause.
Mais est-ce que ce n'est pas, est-ce qu'on peut pas le voir justement comme une opportunité, Jeremy Stubbs, pour l'Écosse et pour l'Irlande du Nord, c'est-à-dire qu'en cas de Brexit dur, de no deal, ils peuvent à juste titre réclamer, alors là je parle surtout pour l'Écosse, un référendum d'indépendance ou pour l'Irlande du Nord, un vote sur la réunification des Irlandes, comme le prévoient les accords de paix.
Les intérêts dans les pays sont différents. Le problème n'est pas le même. La question de l'Écosse, c'est toujours la même question depuis de nombreuses années. Toujours. C'est un référendum pour l'indépendance. Et ce qui est sûr, c'est que Boris Johnson leur refusera ce référendum.
Sûr, même en cas de Brexit dur.
Ça, il faudra le voir, mais on n'en est pas encore là. Mais de toute façon, ce ne serait qu'après tous les événements, pas avant, ça c'est certain. En Irlande du Nord, on a un autre problème qui est que la majorité protestante veut rester au sein du Royaume-Uni. En même temps, comme les autres Irlandais, ils ont des craintes d'ordre économique. C'est-à-dire que si l'Irlande du Nord, en cas de no deal, est en quelque sorte exclue, les conséquences économiques sur l'Irlande du Nord, comme sur l'Irlande du Sud, d'ailleurs, sur la République, seront catastrophiques. Donc ils sont prêts non pas à quitter l'Union européenne, mais ils sont majoritairement prêts à rester dans une sorte d'union économique avec la République. Ce qui ne plaît pas aux députés DUP.
Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour ces trois régions du Royaume-Uni? Qu'est-ce que ça représente les échanges commerciaux avec l'Union européenne, John Henley?
Écoutez, pour l'Irlande, c'est très important. Pour l'Écosse également. Par rapport à la Grande-Bretagne, les intérêts ou le PIB, par exemple, de l'Écosse, ce n'est pas très un composant très très important de l'économie britannique.
Alors, on a une situation qui paraît relativement ubuesque pour l'Irlande du Nord. Sophie Loussouarn, on en parle beaucoup, mais à nouveau, la visite de Boris Johnson en Irlande du Nord la semaine dernière l'a rappelé. Une situation assez ubuesque parce que c'est pour la protéger que l'Union européenne veut mettre en place une clause de sauvegarde qui permettrait d'empêcher le retour d'une frontière physique. Clause que Londres qualifie d'inacceptable et Londres voulant rétorquer par un Brexit sans accord. Or, qui souffrirait le plus d'un Brexit sans accord, c'est l'Irlande du Nord et l'Irlande tout court dont la route commerciale passe par le Royaume-Uni. Donc dans tous les cas, l'Irlande est quand même peut-être la plus à plaindre en ce moment.
Oui, alors mardi 30 juillet, Boris Johnson s'est rendu à Belfast pour rencontrer Arlene Foster et aborder les questions essentielles. Boris Johnson veut abolir le backstop et Arlene Foster espère que le Premier ministre pourra négocier avec les 27 pays membres car ce backstop remettrait en question l'unité du Royaume-Uni.
Le backstop, alors, Sophie Loussouarn, c'est cette clause de sauvegarde.
Oui, qui a été mise en place par les 27 pays de l'Union européenne et que Boris Johnson voudrait remplacer par d'autres dispositifs.
Qui n'existent pas.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut les inventer. Jeremy Stubbs, vous avez l'air contrit.
Disons que le backstop qui a été... Il y en a deux, c'est ça le problème d'abord. Il y a un premier backstop qui inclut l'Irlande du Nord et un deuxième qui inclut la Grande-Bretagne aussi. Le deuxième backstop, c'est Madame May qui l'a inventé. Donc, c'est notre propre invention. En même temps, je cite Michel Barnier, l'idée du backstop, c'est de protéger le marché unique. Donc, c'est un peu le message de l'Union européenne. On fait ça pour l'Irlande. Mais en fait, c'est l'Irlande qui porte les risques pour protéger le marché unique.
Alors, on arrive tout doucement, tranquillement, on a encore le temps, mais vers la fin de cette émission. Donc il faut replacer tout ça, tout ce qu'on est en train de dire depuis le début, ce portrait de Boris Johnson, ce qui attend le Royaume-Uni avec ce nouveau Premier ministre. Évidemment, tout ça en toile de fond, il y a le Brexit et cette information que Anne Fauquemberg a rappelée dans le journal de 18h tout à l'heure. Est-ce une information, en tout cas c'est une confirmation que la Commission européenne réaffirme que l'accord sur le Brexit est le meilleur possible, qu'il ne sera pas rouvert à la discussion. On a, que ce soit en Europe ou au Royaume-Uni de nouveaux personnages, si je puis dire, que ce soit donc Boris Johnson qui remplace Theresa May ou à Bruxelles Ursula von der Leyen, qui n'est pas encore officiellement présidente de la Commission européenne, elle ne le sera que le 21 octobre, donc 10 jours avant que n'expire le délai pour un Brexit avec accord. Mais en tout cas, est-ce que le fait que ces cartes soient rebattues, ça peut augurer de quelque chose d'un petit peu nouveau quoi, dans ce dossier du Brexit, dont on a l'impression qu'on dit quand même un peu toujours la même chose depuis
non,
le début.
Non, John Henley. Ça va vraiment rien changer. Les lignes de l'Union européenne sont fixes maintenant depuis 2 ans, plus de 2 ans, avec l'accord des 27. Elles ne changeront pas. Michel Barnier l'a dit à plusieurs reprises. Boris Johnson, pour l'instant, il refuse de négocier avec les Européens tant que le fameux backstop dont on vient de parler ne sera pas et restera toujours dans l'accord de sortie.
Mais d'ailleurs, donc, il emploie toujours ce mot de quoi indigne, c'est indigne comme clause.
Non,
c'est
antidémocratique. Ils appellent ça antidémocratique, ce qui n'est vraiment pas le cas, vraiment pas le cas. Mais je pense que ce qui est important de souligner là, c'est que on s'achemine vraiment vers une sortie sans arrêt. C'est l'option par défaut. Si les députés britanniques et si les 27 n'arrivent pas à un autre accord, on sortira automatiquement le 31. Et donc la question que beaucoup d'Anglais, de Britanniques se posent en fait, c'est que veut réellement Boris Johnson ? C'est quelqu'un d'intelligent. Personne ne peut vraiment imaginer qu'il veut la catastrophe économique que serait un Brexit sans accord. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une volonté, tout simplement la volonté de tout homme ambitieux politique, c'est-à-dire de rester au pouvoir le plus longtemps possible? Est-ce que ce qu'il veut pas vraiment, c'est de exiger des Européens ce qu'il sait déjà ils ne sont pas capables de lui accorder, de lui donner, c'est-à-dire de laisser tomber le backstop. Ensuite, de revenir à Westminster, de dire aux députés britanniques, bon, c'est fait, les Européens nous humilient, ils nous méprisent, on va pour un Brexit sans accord. Après, les députés britanniques, ils disent, bah non, on l'a déjà dit 3 fois, ce sera pas un Brexit sans accord. Donc, en ce cas-là, dans ce scénario-là, Boris Johnson, il peut déclencher des élections législatives en se présentant comme le sauveteur du Brexit, le seul homme, l'homme providentiel qui représente la volonté du peuple.
Mais quel machiavélisme vous avez en vous, John Henley, Jeremy Stubbs, vous y croyez à cette logique presque personnelle, quoi. C'est pour rester au pouvoir. Il n'a qu'une très faible majorité. Elle est de 1 député aujourd'hui au Parlement. Quelle peut être sa tactique ?
Eh bien, ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne ne bougera pas tant que Boris Johnson n'aura pas surmonté 2 obstacles. Le premier, c'est en septembre, une motion de censure qui sera portée devant le Parlement. Ils n'ont aucune raison de changer d'avis, parce que si le gouvernement tombe en septembre, c'est pas la peine de faire des concessions. Le deuxième obstacle, c'est convaincre les Européens, parce que ça va être, bon, il y aura d'abord la stratégie du bord de l'abîme, et ensuite il y aura le bras de fer. Qui est-ce qui souffre le plus de sorte qu'il demande des termes à l'autre? Est-ce que d'ici décembre, après une sortie sans accord, le Royaume-Uni, sous Boris Johnson, ne dira pas « Bon, on accepte le backstop maintenant parce que ça fait trop mal ». Ou est-ce que ce ne sera pas l'Union européenne qui dira la même chose? On enlève le backstop parce que... Donc, on est dans cette situation, c'est assez confondant, mais ce n'est pas la faute uniquement de Boris Johnson.
Mais est-ce que vous, Jeremy Stubbs, là je m'adresse vraiment aux représentants en France du Parti conservateur, est-ce que vous y retrouvez dans tout ça? Je veux dire, quand vous avez vu que Boris Johnson avait été élu Premier ministre, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous adhérez à sa position très dure sur le Brexit?
D'un côté, puisqu'il est là au pouvoir, il faut espérer qu'il fera le mieux possible pour tout le monde. Il en a l'intention. Mais je pense aussi au titre de ce film sur Churchill il y a quelques années. Ça s'appelait quoi ? L'heure la plus sombre. Et je pense que lui, il a toujours cette mythologie de l'heure la plus sombre.
Sophie Lussault, la question principale, je pensais, est-ce qu'il va mettre le Parti conservateur, la survie du Parti conservateur et d'ailleurs sa carrière devant les intérêts du pays?
Voilà, Sophie,
c'est ça la grande question.
Sophie Lussault, qu'est-ce qui va prévaloir dans tout ça?
C'est la grande question. Je pense qu'il va être confronté en effet à l'opposition des rebelles du Parti conservateur qui vont s'allier avec le Parti travailliste, avec les libéraux démocrates et avec les nationalistes écossais. Et il devra faire face à une hostilité au Parlement. Mais il a en même temps tellement de charisme qu'il est tout à fait à même de gagner une élection législative. Mais en effet, le Parti conservateur sera très divisé entre ceux qui sont toujours partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, et je pense au rôle qu'a joué l'ancien procureur général Dominic Grieve, ou encore le rôle... faire campagne pour le maintien et aussi à tout prix un Brexit avec un accord. Et c'est ce que souhaite l'ancien ministre des Finances de Theresa May, Philip Hammond, qui va s'allier avec les travaillistes pour faire échec à un Brexit sans accord, et l'ancien ministre des Finances de John Major, Kenneth Clark, qui est the father of a house, le doyen de la Chambre des communes. et donc, cet automne sera houleux au Parlement. Les congrès des trois grands partis seront passionnants. L'élection législative partielle à Brecon et Radnorshire a montré combien le Parti conservateur était faible.
Au Pays de Galles, vous voulez dire.
Au Pays de Galles, oui.
Donc, et il a perdu
la victoire
un député.
Et
risque de perdre sa majorité.
Voilà, exactement. Et donc, c'est une majorité très faible. Qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre à Boris Johnson à l'automne. Et s'il se présente devant le peuple britannique pour une élection législative, alors voilà, il faudra voir quelle sera la volonté populaire.
C'est pour ça que je pense qu'il sera justement tenté par des élections législatives anticipées. Parce que cette majorité est tellement faible et parce que l'arithmétique parlementaire n'a pas changé. Il n'y a pas de majorité au sein du Parlement britannique pour un Brexit sans accord. Il n'y a pas de majorité pour un Brexit avec l'accord de Theresa May. Il n'y a pas de majorité pour Remain. Et il n'y a pas pour rester dans l'Union européenne. Et il n'y a pas de majorité pour quoi que ce soit, en fait. Donc il faut d'une manière ou d'une autre changer le calcul, l'arithmétique parlementaire. Et il pourrait, vous avez dit machiavélique, le scénario envisagé maintenant le plus machiavélique, ce serait d'organiser, de déclencher des élections législatives après la date fatidique du 31. Donc on serait déjà sorti sans accord. À ce moment-là, pendant les nouvelles élections, Boris Johnson, il écraserait le Brexit Party de Nigel Farage, il écraserait Jeremy Corbyn, il sera au pouvoir.
Allez, pour conclure, Jeremy Stubbs, est-ce que Boris Johnson a quand même prévu une petite visite dans une capitale européenne ou pas du tout?
Oui, il va faire des visites un peu partout, mais je pense, pour enchaîner, que son vœu le plus secret, c'est d'être obligé d'organiser des élections par le Parlement. Il n'en aura pas la responsabilité, mais il peut prétendre être le vainqueur.
Bon, Boris Johnson qui sera reçu. Alors, il a demandé à attendre un petit peu, mais normalement, il doit rencontrer Angela Merkel et Emmanuel Macron lors du prochain G7, donc à la fin du mois, mais pas avant. Et deux articles récents, l'un du magazine américain The Atlantic et l'autre du quotidien britannique The Daily Telegraph, assurent aujourd'hui que il est bien plus pertinent de comparer Boris Johnson à Emmanuel Macron plutôt qu'à Donald Trump. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Sophie Lussault, maîtresse de conférence à l'Université Picardie Jules Verne, spécialiste de la Constitution britannique. Et merci à vous, Jeremy Stubbs, président du Parti conservateur en France, ainsi qu'à vous, John Henley, correspondant à Paris du Guardian.